à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, salam alaikum. Je devine qu'en rentrant de la plage, vous goûtez Dieu, car c'est bien là la différence chrétienne. Dieu est une fête, une joie pour tous les hommes. Avec Jésus, Dieu est passionnant, intéressant. Dans la Bible, Dieu se révèle sur le registre du goût et du plaisir. Écoutez-moi et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de mets succulents. Et dans les évangiles, les images qui expriment le royaume désiré sont celles du festin des noces. Justement, vous pouvez trouver mon dernier livre, Le festin de la passion, ou Dieu amoureux de l'homme, à la librairie des apôtres à Jougnet. J'y réponds à vos questions et vous découvrirez un peu notre vie dans la maison Abana. Une vie toute simple, de prière et de travail. Il nous faut apprendre à réinvestir le christianisme du côté de la jouissance, de la positivité et de la créativité. Le christianisme se fonde sur le goût d'être. Le goût moderne pour la convivialité peut nous conduire à envisager le christianisme à partir de la joie, de la saveur, du goût de vivre, comme un excès d'être. L'Évangile a un effet, il nous met en joie. Tout est hymne à la fête, à l'amour, expérience de la grâce. La foi ajoute au bonheur d'être. Notre foi veut promouvoir une logique de gratuité. Les premiers chrétiens dansaient. Basile le Grand exalte la vie chrétienne comme une danse. La danse évoque la rédemption des corps, c'est la légèreté contre la lourdeur. Le diable, c'est l'esprit de pesanteur, disait Nietzsche. Un saint triste est un triste saint. Mes chers amis libanais, vous avez souhaité quelques repères pour votre vie spirituelle. Aussi vais-je essayer de vous répondre. Entrer dans une vie spirituelle, c'est peut-être commencer à prendre conscience de notre relation à Dieu et réaliser que ceci est de l'ordre de la vie. Nous voyons que pour vivre, il est bon de cultiver cette relation. Nous avons hérité de la foi, mais elle reste parfois endormie, et alors nous ouvrons un œil, puis deux. Ce qui arrive alors nous donne soif d'avancer, d'aller plus loin. La parole de Dieu devient vivante et nous tentons d'y conformer notre vie. Nous quittons la léthargie et la dispersion mondaine pour entrer dans le recueillement intérieur. Notre être s'unifie, notre vie devient cohérente, en laissant Dieu la regarder, la guider et l'orienter. Pour ne pas parler à vous-même dans la prière, au lieu de parler à Dieu, ce qui est un risque, il s'agit de se laisser toucher par la parole de Dieu et non pas par notre propre parole qui nous raconte trop d'histoires. Donc, lire et méditer l'Écriture. Souvenez-vous d'Abraham. Entendre en vérité la parole, c'est quitter notre pays, notre terre, pour entrer dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est pourquoi l'Église donne d'abord comme nourriture pour prier la parole de Dieu. Le fruit de cette méditation de la parole est un fruit de vérité. L'Esprit nous apprend à entrer dans la prière avec toute notre histoire. La parole de Dieu fait croître notre liberté et change nos relations. Nous pouvons créer des liens de liberté avec autrui et avec Dieu. Être soi-même pleinement, c'est passer de l'objet de consommation du désir que l'on excite ou suscite à l'état de sujet de sa propre histoire, sujet pensant et agissant. Assumer son histoire a une connotation psychologique, comme je vous l'ai déjà dit, pour quelqu'un de très blessé, il est parfois utile de recourir à une thérapie. L'acceptation d'une telle démarche signifie qu'on veut faire la vérité et on en prend les moyens, donnés par Dieu et par les hommes. Mais s'accepter soi-même devant Dieu implique une toute autre dimension. C'est accepter que nous nous recevions d'un autre et des autres. Nous découvrons que nous ne sommes pas l'origine de nous-mêmes. Nous sommes donnés à nous-mêmes. C'est cela aussi entrer dans la vie spirituelle. Certains parlent de progresser dans la vie spirituelle, mais cela me gêne, car ce mot « progrès » est ambigu. Nous ne pouvons pas jauger ou évaluer notre progrès. Affirmer que l'on est progressant ou commençant peut signifier un certain volontarisme et la tentation de forger sa propre image spirituelle. Ce que l'on peut vraiment évaluer ou vérifier, c'est l'ajustement de notre vie concrète, de nos actes posés, aux vérités évangéliques que nous prions. Si l'un de vous ne sait plus où il en est, ou simplement s'il désire avancer sur le chemin de Dieu vers Dieu, il faut d'abord chaque soir faire une relecture de sa journée. C'est une façon de mettre sa vie concrètement en lien avec sa prière. C'est repérer l'action de Dieu dans son existence, à travers son travail, ses rencontres, ses amitiés. C'est découvrir que Dieu agit pour nous et que son action est bonne. C'est apprendre à reconnaître cette réalité-là et à remercier, à rendre grâce pour ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Cette relecture de notre vie quotidienne est un moyen d'éducation quotidien qui aide à accéder à une foi adulte. Il y a une grammaire de la foi, de la vie spirituelle, comme il y a des notes et des gammes en musique. Grammaire de la foi, c'est-à-dire des lettres à apprendre, des syllabes, le nom, le verbe. Les Écritures, les psaumes, nous enseignent cette grammaire-là. Prier, relire sa journée, louer Dieu, grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Mais grandir dans la foi, c'est aussi comprendre sa foi, entrer dans l'intelligence du mystère de la foi. Ainsi, je pense à François Varillon, dans son livre « Joie de croire, joie de vivre » aux éditions Centurion. Essayez de le lire, car vous y trouverez une rare et excellente interprétation du credo pour l'homme d'aujourd'hui. Lumière et respiration. Ne jamais vous laisser décourager sur le chemin lorsque votre naturel revient au galop, comme un obstacle à votre désir d'élévation et d'altitude. On désire monter et hop, on retombe. Celui qui veut marcher dans la foi va se rendre compte de l'écart entre le don qui lui est fait et la réalité de ce qu'il vit. La prise de conscience de cet écart va l'amener à ce que je nomme une confusion amoureuse. Je suis aimé et je n'y réponds pas. Et cependant, c'est cet amour qui me constitue. Je suis redevable et je ne peux rendre. C'est cette confusion qui conduit à la prise de conscience décisive. J'ai besoin d'être sauvé du chemin de mort dans lequel, par mon mensonge, je suis engagé. Parfois, c'est par là que commence la vie spirituelle. Il y a des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont sur un chemin de mort. L'adultère, relations déviées ou désordonnées, trafic, dépendance affective ou tabagique ou autre drogue, esclavage de l'argent devenu le but de la vie et non plus un simple moyen. Pas de croissance possible sans ce passage par la confusion amoureuse. Cela signifie que je suis quelqu'un qui reçoit tout à fait gratuitement le don de la réconciliation. Cette découverte-là, lorsqu'elle arrive clairement à se dire à la conscience, trouve son expression concrète dans le sacrement de la miséricorde. Et c'est un passage jamais achevé. Mes amis, chaque personne qui, devant la croix du Christ, se découvre aimée jusque-là, rendue à elle-même par la grâce d'amour d'un autre, livrée à elle et pour elle, n'a-t-elle pas le désir d'aller encore plus loin dans sa réponse? Si, bien sûr, passé ce stade de la reconnaissance de ce don et de mon péché, la vie spirituelle ne peut mener sous une forme ou sous une autre à la mission. Aujourd'hui, c'est une difficulté que nous rencontrons. Certains montrent une vraie générosité à travers un besoin religieux, un désir de prière, mais on en reste là. Et cela ne se manifeste pas dans la vie concrète par un changement de comportement tant soit peu évangélique. Et cependant, la vie chrétienne est la prise au sérieux du métier d'homme et de femme qui se traduit obligatoirement par des choix dans la vie, par des engagements visibles et repérables. La foi a forcément une dimension sociale et politique en commençant par sa traduction dans la vie professionnelle. C'est là que se vérifie l'authenticité d'une vie selon l'Esprit. François Varillon, dans son livre « Joie de croire, joie de vivre », affirme avec force que nos vies sont faites de décisions, que le Christ ressuscité est là présent dans nos décisions. Ne pas choisir, c'est se laisser emporter et perdre sa liberté. Je connais des gens passionnés par leur métier, mais qui se posent des questions. Vont-ils se laisser prendre par la spirale de la mode en abandonnant les valeurs essentielles? Prions.
Thank you.
Chaque personne a un choix à faire, et tout choix de ce genre est douloureux, car il implique des renoncements. Ceci nous met avec le Christ qui fait des choix. Prendre en compte l'Évangile dans sa vie, c'est se demander par exemple ce que nous allons faire des béatitudes. Sont-elles réservées à quelques gens pieux ou concernent-elles tout le peuple chrétien? Si on limite l'Évangile au registre pieux, on ne peut pas comprendre le sens de la croix du Christ. Voilà encore un bon critère de la vie spirituelle. Par exemple, le Liban a un merveilleux président chrétien qui doit prendre pour programme politique, envers et contre tous, les béatitudes, ce qui concrètement doit se réaliser prochainement à travers une sécurité sociale digne des travailleurs libanais et un salaire de retraite digne aussi de ce même peuple laborieux et des allocations familiales pour encourager les familles à éduquer et soigner leurs enfants. Là, je crois que c'est la priorité d'un président chrétien qui met l'Évangile sur son bureau présidentiel avant toute autre considération. La prière évolue avec l'âge et la vie. Si moi-même je prie comme au début de ma vie consacrée, mon oraison deviendrait fastidieuse, en risque d'être abandonnée. À mesure que le chrétien se laisse guider par l'Esprit du Christ, sa forme de prière va devenir beaucoup plus une présence à Dieu. Il va lui falloir réinventer son mode de prière pour qu'il corresponde à ce qu'il est devenu. Autrement, sa prière se videra de sa moelle, de sa substance. Parfois, ce seront de longs moments, de simples présences à Dieu, même si par ailleurs, une nourriture spirituelle puisée dans la lecture et la méditation de l'Écriture des pères ou mères du désert demeure essentielle. Une prière simple de présence intérieure et permanente à Dieu se reçoit de lui. Il faut parfois se libérer de la grammaire spirituelle et se laisser prier, ce qui peut prendre diverses formes. Un verset de psaume, une louange. On ne fixe pas aux gens leur façon de prier. Si parfois ça coince ou si c'est trop rapide, on peut suggérer ceci ou cela discrètement. Aujourd'hui, dans le climat du monde actuel, comme je vous le disais déjà, les gens sont beaucoup plus angoissés qu'on ne croit, même les gens saints. Et cette angoisse diffuse risque d'étouffer en eux la dimension évangélique et l'esprit. Il faut arriver à larguer les amarres, à quitter toutes ces sécurités. C'est le point de passage. Dieu, ma forteresse, comme dit le psaume. On le sait, on le dit, mais lâcher tout n'est pas facile. Et l'angoisse est encore une façon de retenir les choses. C'est pourquoi l'Eucharistie doit être au cœur de toute vie spirituelle. Elle y impulse la Pâque du Christ, son mystère de mort et de résurrection. On se donne et on se reçoit de lui. Chaque jour et à chaque moment, nous ne pouvons tout abandonner que si nous sommes sûrs que Dieu exerce en nous sa puissance de résurrection. Nous pouvons vivre cet abandon dans l'action même. C'est d'autant plus difficile que cette action nous engage dans un monde de plus en plus complexe. L'Évangile a été écrit dans un monde plus simple, plus naturel, dirais-je, aux relations spontanées. Les rapports humains d'aujourd'hui sont complexes. La tentation est alors de lâcher la foi en disant qu'elle n'est plus adaptée à ce monde-ci. On n'a plus le temps. Les gens vivants sont débordés. Les autres perdent espoir. Il y a là un réel problème. Alors, ce qu'il faut apprendre, c'est de faire une pause, de s'arrêter, des petits arrêts au long du jour, avant une rencontre, avant une décision, et des pauses sabbatiques. Chacun doit trouver son rythme qui n'est pas forcément quotidien, Il y a des rythmes hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Par exemple, prendre un long temps en fin de semaine pour prier, faire la paix en soi, donner à Dieu le temps de nous rejoindre. Je pense aux couples en difficulté. En couple, vivre un week-end par trimestre dans un monastère en confiant les enfants à la têta ou au jet d'eau, c'est vraiment laisser Dieu agir en nous et renouveler l'amour conjugal. Se resituer devant Dieu en le prenant pour partenaire. N'oublions jamais qu'on se marie à trois, Dieu, l'épouse et l'époux. J'espère que ces quelques repères vous serviront. Dieu veut tellement nous combler entièrement. Vous me demandez souvent si Dieu a une volonté particulière sur chacun de nous. Oui, il y a bien un dessein de Dieu sur l'humanité. Les épîtres de Paul, le prologue de l'évangile de Jean, ont tenté de le décrire, je cite, « Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. » Éphésiens 1, 4, 5. Et je cite à nouveau, « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, 12. Ce dessein de Dieu n'est pas une détermination quelconque d'une volonté divine souverainement libre. C'est un destin de salut qui exprime l'être ultime de Dieu. Il est amour qui se livre et qui se communique. Ce dessein d'alliance englobe toute l'histoire et toute l'humanité. Mais parce que Dieu est volonté d'alliance avec l'homme et la femme, désir de communion avec eux, Dieu ne peut s'adresser qu'à des personnes libres. Il est donc vrai qu'il y a un désir de Dieu qui nous rejoint chacun personnellement. Si Dieu se manifeste par son Verbe et sa parole, c'est pour être entendu par chacun de nous. S'il nous appelle à devenir fils ou fille dans le Fils unique Jésus-Christ, c'est bien qu'il attend de nous une réponse personnelle à son appel. Le Dieu devant qui nous sommes n'est donc pas cet ordinateur surpuissant capable de programmer des milliards de destinées. Non, c'est un Dieu Père, un Dieu amour qui prend le risque de nous appeler à la vie, semblable et différent pour nous offrir l'alliance et la communion. Nous devenons avec Dieu et par lui des êtres de communion et non plus de consommation. C'est à ce visage du Dieu Père et amour qu'il nous faut nous convertir si nous voulons pouvoir nous situer en vérité devant la volonté de Dieu. Nous le reconnaîtrons alors, non plus comme un diktat ou une fatalité, mais comme notre premier partenaire qui nous appelle à une création commune. La réponse que nous donnons à Dieu n'est inscrite nulle part, ni dans le livre de vie, ni même dans le cœur de Dieu, sinon comme attente et espérance. L'espérance de ce que Dieu ne voit pas encore et auquel nous allons donner nous-mêmes forme et visage. C'est là la grandeur et le risque de nos vies d'être ainsi appelés à réjouir Dieu par la qualité et la générosité de notre réponse. Et le choix que nous faisons se fait à partir de notre tempérament et de notre histoire. Nous ne pouvons pas tout, mais on peut donner sens et forme, visage à ce qui ne serait qu'un pauvre destin. Dans cet effort de création personnelle de notre vie, en réponse à l'appel de Dieu, l'Esprit-Saint nous rejoint, non pas en s'imposant à nous, mais comme une énergie intérieure suscitée en nous par l'accueil de la parole de Dieu et la participation à la vie de notre Sainte Église. L'Évangile ne nous dicte pas ce que l'on doit faire, mais nous ouvre des horizons à notre désir. Je cite, il a été dit, Moi, je vous dis, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 5, 26. L'Église, pour nous aider dans notre réponse à Dieu, nous relie à une foule de témoins où elle nous apprend à reconnaître des frères aînés sur le chemin. Leur vie, leurs choix sont là, devant nous, comme autant d'appels de Dieu à suivre. Charbil, François d'Assise, Stéphane Némé, Ravka, Thérèse d'Avila, Ignace, le patriarche Stéphane Doyer, leur vie sont pour nous une invitation à inventer à notre tour la réponse qui viendra glorifier Dieu. Que l'on pense par exemple aux choix successifs d'un Charles de Foucault ou de l'Abouna Afif Oseiran. Beaucoup plus qu'une programmation rigoureuse, ce qui caractérise la vie d'un saint, c'est la qualité d'une réaction spirituelle aux événements, fussent-ils les plus inattendus ou indésirables. C'est pourquoi le Liban est une terre de saints. Courage sur le chemin et priez pour nous. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.